Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. Merci de nous écouter. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principales articulations. Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie doivent rentrer chez eux. C'est du moins ce qui ressort d'une réunion tripartite qui se tient depuis mardi à Genève en Suisse entre les représentants du Burundi, de la Tanzanie et du HCR. L'association CPDH Wicard, qui milite en faveur des réfugiés vivant dans les camps, n'en revient pas. On fera le point dans ce journal. Et puis, c'est la colère chez certains militaires burundais. Ils réclament des équipements militaires qu'ils n'ont pas eu depuis plus de 2 ans et l'amélioration de leur salaire. Enfin, un enfant de 9 ans a échappé de justesse à la mort après avoir été jeté hier dans les latrines au lycée communal de Muyinga. Le coupable est pour le moment en garde à vue. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes vendredi 14 octobre 2022.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie doivent regagner leur pays. L'annonce a été faite par le ministre tanzanien de l'Intérieur lors du 23e sommet des Nations Unies qui se tient depuis ce mardi à Genève en Suisse et qui se clôture ce vendredi. Il a précisé que c'est un consensus qui a été dégagé entre 3 parties, le Burundi, la Tanzanie et la représentation du HCR en Tanzanie. La coalition des défenseurs des droits de l'homme et des réfugiés vivant dans des camps de réfugiés CBDH Wicard, on trouve qu'il n'est pas encore temps que les réfugiés burundais rentrent par force car les violations des droits humains continuent au Burundi. On fait le point avec Pierre Garungu.
Le ministre Ramadan Massaouli a précisé lors du sommet que le Burundi, la Tanzanie et le HCR s'accordent sur le rapatriement des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. L'occasion lui a été donnée d'expliquer à l'opinion internationale les motivations du processus. Écoutez le ministre Massaouli.
Les réfugiés qui sont à Kirima doivent regagner leur pays. L'opinion internationale est au courant. À vrai dire, le processus de rapatriement de ces réfugiés burundais a été consenti entre 3 parties, à savoir le Burundi, la Tanzanie et le HCR.
Les propos du ministre tanzanien de l'Intérieur sont réfutés par la coalition des associations qui défendent les droits de l'homme et des réfugiés vivant dans les camps. Léopold Chalangabo, vice-président de la CBDH Wicard, trouve qu'il y a des contradictions entre ce qu'il dit et la réalité sur terrain. Il demande au HCR de continuer à aider les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Léopold Chalangabo.
Le discours du ministre tanzanien de l'Intérieur est un discours plein de contradictions. Par exemple, il a suggéré que les Burundais ont besoin d'être aidés pour que la situation dans son pays puisse changer. Pendant qu'en Tanzanie, son ministère qui est en charge de réfugiés a souvent malmené les Burundais à les contraignant de rentrer. Je suis pas des actes de violation de toutes sortes. Arrêtez de dire que tout va bien au Burundi. Il a aussi demandé une aide à la communauté internationale pour le rapatriement volontaire. En d'autres termes, il a confirmé que les réfugiés burundais rentrent par leur volonté. Mais c'est faux, parce que les autorités de son ministère, en collaboration avec la police tanzanienne, redonnent souvent les réfugiés burundais de rentrer. Et ils embarquent souvent forcément les réfugiés burundais. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'abord au gouvernement tanzanien de laisser le choix de rentrer au réfugié burundais. S'il trouve qu'il n'est pas à mesure de continuer à sécuriser les réfugiés burundais, il a repris le droit de demander le transfert de ces réfugiés dans d'autres pays qui en sont capables. Nous demandons aux Nations Unies, par le biais de ce UNHCR, de continuer à soutenir les réfugiés burundais.
Rappelons que depuis 2015, les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie ont subi plusieurs sortes de maltraitances avec l'objectif de les pousser à rentrer. Des associations de défenseurs des droits des réfugiés n'ont cessé de dénoncer des cas d'assassinat, d'enlèvement et d'emprisonnement. Des rapatriements forcés sont aussi signalés par ces organisations.
Merci Pierre Gahungu pour toutes ces précisions. C'est la grogne chez les militaires burundais qui viennent de passer plus de 5 ans sans équipement militaire. Ces équipements sont donnés normalement après 3 à 6 mois. Ces militaires demandent également la revue à la hausse de leur salaire. En plus de détails avec Joséphine Jones-Hundimana.
Ces militaires indiquent qu'ils ont manqué les équipements militaires depuis l'an 2016. À chaque fois qu'ils demandent la question relative à la distribution des tenues, la réponse est que le cargo est en convoi dans les eaux de l'océan vers le Burundi. Plus de 5 ans vient de s'écouler, la réponse est toujours la même.
Au sein de l'armée burundaise, il y a un problème particulier lié au manque d'équipement et spécialement les tenues. Et ce problème date de l'an 2016. C'est à cette époque que nous avons reçu des tenues, des t-shirts, des chaussettes et des bottines. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un militaire de l'armée régulière et le confondre à un rebelle à cause de son accoutrement. Quand nous demandons à quand la distribution de nouvelles tenues depuis 2016, ils nous disent que le cargo est en convoi dans les eaux de l'océan. Nous demandons à ceux qui le peuvent de demander pourquoi nous sommes dans un manque criant de ce qui était censé être à notre disposition. Normalement, la distribution de nouvelles tenues devrait se faire tous les 3 mois.
Ces militaires font savoir également qu'ils ne sont plus autorisés à poser ce genre de questions dans les séances de causerie morale. Ils disent en outre que les officiers ont plus de facilité lorsqu'ils vont réquisitionner leur propre tenue au bureau du G4 logistique, alors que les autres n'en ont pas.
Le problème que nous avons aujourd'hui, même dans ces réunions que l'on nomme causerie morale, nous ne sommes pas autorisés de poser une quelconque question. On nous rétroque en nous demandant si la question posée est d'abord connue par la hiérarchie depuis les premiers échelons de commandement. Nous n'avons plus l'espace pour exprimer nos problèmes. Nous demandons au ministre de la Défense de plaider pour notre cause au président de la République pour qu'il sache que les problèmes de l'armée nous affectent tous sans exception. Quand un officier va demander la réquisition d'une tenue chez le G4, il a ce privilège de le recevoir, mais pour les autres, non.
Ces militaires affirment que cette situation ajoute le drame au drame face à leur rémunération qui est très minime. Ils demandent au président de la République de revoir à la hausse leur salaire parce que certains d'entre eux ne vont plus en congé par peur de ne pas avoir le ticket pour aller rendre visite à leur famille.
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons cherché le porte-parole de l'armée burundaise, mais sans succès. Et puis, c'est une avancée positive que l'armée burundaise ait ouvert une enquête sur le détournement des fonds au bureau d'état-major de l'armée. C'est du moins ce qu'indique l'ancien officier de l'armée et analyste dans ce secteur. Gratien Rukindikida explique que le bureau de traitement des salaires, qui est informatisé, doit être soumis à un audit de la gestion des fonds dans l'armée. On écoute plutôt Gratien Rukindikida.
C'est la première fois qu'il y ait un détournement de telle ampleur, mais c'était pas du tout prévisible parce qu'à l'armée, il y a un bureau des traitements qui est informatisé, complètement informatisé. Donc, pour faire un stratagème, arriver à détourner tel montant, il faut faire en sorte qu'on rentre des gens qui sont sortis de l'armée ou qui sont morts ou qui sont emprisonnés, tout ce qu'on veut. On crée un fichier des salariés, du personnel, des militaires qui sont payés. Et je pense que c'est pas une affaire de toute l'armée, c'est pas une affaire de toute l'hiérarchie des chefs, mais c'est une affaire de quelques-uns. Parce que si c'était pour tout le monde, ils seraient pas inquiétés. Je dirais que les Burundais, surtout au niveau de l'armée, ils essaient de suivre l'exemple du Congo. C'est au Congo, on avait annoncé au président qu'il y avait 20 000 militaires qui combattaient le M23. Et donc, du coup, il y avait l'argent pour les 20 000 militaires, il y avait l'équipement pour les 20 000 militaires. Mais quand il a fait la tournée, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 5 000 militaires qui combattaient. Donc, de ce fait, il y avait un détournement. Il a limogé le chef d'état-major. On l'a vu tout récemment. Donc, au Burundi, ce détournement, ça implique bien sûr sur les chefs, parce que les chefs n'ont pas contrôlé, mais on pourrait se demander réellement s'il n'y a pas une nécessité d'avoir un audit de la gestion de l'armée, notamment la gestion même de l'argent de la MISOM, pour qu'il y ait plus ce genre de détournement. Un bon point, c'est que finalement, ils ont accepté, ils ont arrêté ces gens-là, ils n'ont pas été couverts comme ça se faisait de temps en temps. C'est une bonne chose, pourvu que ça continue ainsi.
Rappelons qu'un montant estimé entre 1 et 2 milliards de francs burundais aurait été détourné au bureau de l'état-major de l'armée burundaise. Les enquêtes sont en cours pour établir des responsabilités. Plus de 60 militaires sont sous les verrous dans ce dossier.
Inzamba.
Dans l'actualité de ce vendredi également, trois personnes, dont un officier militaire et le chef de zone Butaganzwa dans la même commune de Butaganzwa en province de Kayanza, sont dans les mains de la justice depuis ce jeudi. Cela a eu lieu après que Jocelyne Nisabie, coordinatrice de la société Kayanza International, Joe Speciality Coffee, a pris le large alors qu'elle était dans les mains de l'officier. C'était au moment où la femme venait d'être ramenée de Bujumbura à Kayanza, afin de s'expliquer auprès des autorités administratives provinciales sur le retour accusé dans le paiement des caféiculteurs de la station de lavage de la colline Nyarurama en commune Butaganzwa. Les précisions avec Alice Sakimane.
Au départ, les caféiculteurs de la station de lavage de Nyarurama en commune de Butaganzwa se sont plaints auprès de l'administration provinciale suite au retard de paiement accusé par la société dénommée Kayanza International Joe Speciality Coffee, représentée par Jocelyne Nisabie. Puis l'autorité provinciale a pris la question en main jusqu'à faire ramener de la ville de Bujumbura Jocelyne Nisabie. L'opération a été faite mercredi, puis Madame Nisabie a été placée sous la responsabilité d'un officier militaire de grade de major, connu sous le nom de Daniel Nimirangeza, qui devait la conduire jusqu'à l'autorité provinciale de Kayanza, qui l'avait fait arrêter. Mais à leur arrivée dans la ville de Kayanza, Madame Nisabwe a effectué une opération bancaire et a versé 40 millions sur un compte qui lui avait été indiqué, alors que la société devait au caféiculteur 120 millions de francs bou. Et tout cela a été fait à l'insu des autorités. Et puis Madame Nisabwe et le major Nimiraniza se sont volatilisés. C'est seulement le lendemain, jeudi, que l'officier Nimiraniza seul a pu être retrouvé dans la ville de Kayanza. Interrogé à propos de Madame Nisabwe, le major a répondu qu'elle était en cavale. À cet effet, sous mandat délivré par le procureur général près la cour d'appel de Ngozi, l'officier a été arrêté par le procureur de la République à Kayanza. Aussi, deux autres personnes originaires de la commune de Butaganzwa, dont le chef de zone de Butaganzwa, ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Comme l'a précisé l'autorité provinciale, ces trois personnes ne seront libérées que lorsque Madame Nisabwe sera retrouvée. Signalons toutefois que ce jeudi, ces caféiculteurs ont commencé à percevoir leur argent avec les 40 millions que Madame Nisabwe a déposés à la banque.
De Kayanza, cap sur la province de Muyinga, où un enfant de 9 ans de la colline Kinyota en province de Muyinga a échappé à la mort après avoir été jeté ce jeudi dans une latrine par un chargé de discipline au lycée communal Muyinga. N'eût été l'intervention des voisins, l'enfant serait mort. D'après nos sources auprès de l'administration locale, l'encadreur est depuis hier en garde à vue au cachot de la police judiciaire du commissariat de Muyinga. La mère de cet enfant demande à la police de mener une enquête approfondie afin que le présumé coupable puisse répondre de ses actes. Le point avec Georges Nimenya.
Ce petit garçon a été jeté jeudi dans une latrine sur la colline Kinyota par un dénommé Silas Zisabira, jusqu'à encadré de discipline au lycée communal Muyinga. Le garçon jouait avec ses pères devant la maison de Monsieur Silas Zisabira. Une action que ce dernier tolérait très mal. Quand ses enfants ont vu Silas arriver, ils se sont sauvés, mais un d'eux n'a pas pu avoir la chance d'arriver plus loin car il a été attrapé et malmené avant d'être jeté dans la latrine. Selon les informations recueillies dans cette localité, le petit garçon n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des voisins qui l'ont tiré de la latrine. La police est par après intervenue pour interpeller le présumé malfrant. La mère de l'enfant se réjouit de l'interpellation de Silas Savila et demande à la police de bien diligenter les enquêtes afin que le présumé coupable soit sanctionné conformément à la loi.
Dans la province de Makamba, ce sont les parents d'élèves du lycée d'excellence de Makamba qui poussent un ouf de soulagement. C'est après la délocalisation des Imbonerakure qui étaient dans les enceintes de cette école où ils venaient de passer plus de 5 mois dans des entraînements paramilitaires. Aujourd'hui, ils ont été installés dans les locaux du nouveau stade de Feu Pierre Nkurunziza par Peace Stadium. Le point avec Karine Doussavé.
Les parents d'élèves du lycée d'excellence de Makamba se réjouissent du déménagement des Imbonerakure. Les Imbonerakure qui poursuivaient une formation paramilitaire depuis avril dernier ont été relocalisés il y a une semaine vers les locaux du stade de Nkurunziza Park Peace Stadium. Selon ces derniers, plusieurs élèves étaient sur le point de déprimer suite aux entraînements paramilitaires de ces Imbonerakure, tant pendant la nuit que pendant la journée en plein cours. Des élèves contactés témoignent que ces Imbonerakure faisaient des gymnastiques militaires munis d'engins semblables aux fusils. Certains des élèves ne pouvaient même pas se reposer pendant toute la période que ces Imbonerakure ont été installés dans les enceintes de ce lycée de la province Makamba. Les mêmes élèves disent que ces Imbonerakure faisaient des rondes nocturnes sur le pourtour de la clôture de l'école, ce qui faisait peur aux enfants car ils n'osaient même pas sortir des dortoirs pendant la nuit pour aller se soulager. Des centaines de jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD en formation paramilitaire logés dans les enceintes du lycée d'excellence de Makamba depuis début avril 2022. Le député Jean-Baptiste Ndiga Massavo, originaire de la province Kirundo, a été dépêché par le parti CNDD-FDD pour la supervision de ses activités.
En mot de sport pour boucler ce journal, au basketball, les équipes Urunani et Dynamo se sont qualifiées pour la finale de ce tournoi. Le club Urunani a validé facilement hier sa qualification à la finale en battant Brothers Team de Chamuzo par 103 points contre 61 points. Une véritable balade pour les hommes d'Aaron Kagabo. Le meneur Malik a été le meilleur marqueur avec 27 points dont 5 tirs réussis de 3 points, 3 rebonds et 4 passes décisives suivies de Landry Ndikumana, le capitaine de l'équipe avec 21 points et 9 rebonds. Dans l'autre match des demi-finales, Dynamo est venu à bout de l'Emesha, score final 66 points à 62. Dynamo ayant eu son dernier mot au cours du quatrième quart temps grâce surtout à son pivot d'origine sénégalaise, Mamadou Diomé, qui a démontré ses talents, notamment avec ses 3 dunks. À son actif, on note 16 points et 23 rebonds. La finale poussera donc vendredi prochain au Urunani à Dynamo, en plus d'une coupe. La fondation Pax Burundi, qui a organisé ce tournoi, a mis en jeu une enveloppe de 7 500 000 pour le gagnant et 5 millions pour le second. Sachez que Dynamo a déjà remporté 3 fois successives le tournoi des héros et Urunani 2 fois. Sur 10 dernières confrontations entre Urunani et Dynamo, Urunani a arraché la victoire 9 fois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon début de week-end. Au revoir et à la prochaine.